des blues, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 290e numéro de l'Écho des Gnous. C'est le premier numéro de l'année, le premier depuis, oula, en direct depuis
un peu trop
un mois et demi. Pierre nous a fait le plaisir d'enregistrer une émission quasiment à lui tout seul. J'ai juste rajouté les musiques. J'espère que ce numéro vous a plu. Est-ce qu'il vous a plu? Merci public. Donc, l'équipe de l'Écho des Gnous, vous, c'est-à-dire Pierre et moi, vous souhaitons une excellente année 2026 qui commence sous les meilleurs auspices. Pour moi.
Hein, c'est bon. Ça dépend de quel point de vue.
Voilà, ça dépend de quel point de vue. Si tu es à la tête d'une major du pétrole américain, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Donc, ce sera l'actualité, bon, quand même des 2-3 semaines écoulées, on va pas faire non plus d'archéologie. Et on va commencer, comme de coutume, par les nouvelles internet et vie privée. Bon, avant de parler d'un sujet un petit peu plus important, petit sujet anecdotique qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, j'avais pas entendu parler. Donc, c'est que New York a élu récemment un maire socialiste. Bon, en France, élire un socialiste, bon, ça devient rare. Mais voilà, c'est quelque chose de relativement banal. Aux États-Unis, se dire socialiste, alors Bernie Sanders a un petit peu, comment dirais-je, rafraîchi le terme et a failli s'imposer aux primaires démocrates de l'élection présidentielle de 2016, si je dis
c'est
pas
ça,
de bêtises.
Oui, 2016.
Et donc, la principale ville, puissance économique américaine, a donc élu un maire qui se revendique socialiste. Il a été très très bien élu. Et quelque chose de surprenant, lors de son investiture, donc les Flipper Zero et les Raspberry Pi étaient interdits.
Tout à fait.
On n'a pas compris.
Alors,
on a vu un article pour dire que non plus, ils n'avaient pas compris. Mais c'est quand même assez étonnant.
Bah, surtout, alors, il y a des. En fait, c'est la liste des éléments interdits. Alors, il y a grands sacs, armes, explosifs.
Normal.
Feu d'artifice, bon. Normal. Chaises, parapluies, vélos, scooters, boissons alcoolisées, animaux. Jusque-là, on est sur le truc générique. Laser pen, donc un pointeur laser. Et Flipper Zero et Raspberry Pi. J'ai pas compris non plus. Personne n'a compris, hein, que ce soit. Donc l'information, moi je l'ai découverte à travers Next. Elle est sortie par Adafruit, qui ont fait un article pour dire qu'est-ce que c'est que cette chose. Et donc en fait, la liste n'indique pas la raison. Il y a juste des marques. Et donc ça continue dans une logique de criminalisation, on va dire, de certains outils, plutôt que de dire. Il est interdit d'utiliser les dispositifs d'interférence avec les signaux radio. Il est interdit d'utiliser des outils pour espionner les fréquences radio, j'en sais rien. Ça, c'est une catégorie d'outils, ça pourrait être interdit à ce titre. Mais non, là, on dit Flipper Zero, on dit Raspberry Pi, alors que bah, le Raspberry Pi, il y a des tonnes de concurrents qui existent et qui font la même chose, ou voire mieux. Donc, il n'y a aucune raison. Le Flipper Zero, je connais un peu moins de concurrents matériels, mais il y en a aussi. Sur lesquels on fait tourner le même logiciel. Donc, ça n'a juste aucun sens.
Alors, ça me rappelle juste, on continue l'anecdote, lors des Jeux Olympiques de 2024, qui ont eu lieu pour certaines épreuves juste à côté du studio, étaient interdits dans la liste les routeurs.
C'est pas mal non plus.
J'ai pas compris non plus. Les routeurs étaient interdits. Bon, on sort de l'anecdotique pour partir sur le géopolitique, comme je pourrais dire assez pompeusement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu les actualités qu'en Iran, une vague de protestations est en cours. Alors, on ne va pas non plus vous faire l'historique, mais voilà, la conséquence, c'est que le régime iranien, le régime des Mollahs, a en bonne dictature. Qui subit la pression de la rue, coupé Internet. Donc c'est l'ONG NetBlocks donc qui l'a constaté, quasiment plus de trafic, le trafic est tombé à 0%. Bon allez, je tente le parallèle avec Macron qui, lorsqu'il y a eu des émeutes en Nouvelle-Calédonie, avait interdit TikTok. C'est pour qu'on défende TikTok, mais bon. Il est un peu... Alors, je vais pas comparer Macron à l'Ayatollah Khamenei,
Mais oui, c'est
vrai que hein, dans les quand ça reste quand même dans la panoplie. Bon, c'est pas étonnant. Hein. La Syrie a fait ça, l'Iran le fait. Bon, on va parler de la Corée du Nord ou là de toute manière ça existe. Je sais même pas si ils ont un internet privé comme en Chine d'ailleurs.
Je peux me faire l'avocat du diable, s'il te plaît.
Allez, je t'en prie, vas-y.
Il y a une autre option qui est pas, parce que on n'a pas d'explication de pourquoi ça a été fait, hein. Alors, oui, il y a le...
Ah, mais ça permet aux gens de communiquer et un régime dictatorial veut pas que les gens communiquent.
Oui, bon. Mais on va juste rappeler ce qui s'est passé il y a une semaine dans un pays d'Amérique du Sud dont le nom ressemble à un instrument de musique barbare. Donc, au Venezuela, il y a eu, donc, le kidnapping tout à fait illégal du président, alors certes mal élu, mais président quand même.
Ah là, pour le coup, pas élu. Ouais, du ouais, tout. La dernière fois, la première fois, il était élu, la dernière, pas du tout.
Voilà.
Et on va pas pleurer sur son sort non plus.
Ah, je vais pas pleurer sur son sort, mais par contre, sur ce qui s'est passé, je pense qu'on peut largement pleurer et se plaindre du fonctionnement. C'est un peu bizarre, on va dire, cette façon d'agir. Et en parallèle de ça, il y a eu des grosses perturbations sur l'Internet au Venezuela, lors de l'intervention américaine. Et il y a eu des redirections de trafic, des choses comme ça. Donc, en voyant ça, un État comme l'Iran, qui se sait menacé par Donald Trump, je vois pas pourquoi il se dirait pas, ben, on va faire d'une pierre deux coups, on va empêcher nos manifestants de communiquer entre eux, de s'organiser, et aussi on va éviter d'avoir les Américains qui récupèrent des informations. Alors, sur nous.
Pierre, avocat d'une dictature.
Ah ouais,
tu arrives. Tu notre jette Vergès à nous, Pierre.
C'est ça, c'est la nouvelle année. Non mais
bientôt
c'est pas
tu
pour...
défendras Benjamin Netanyahu à son procès sur crime contre humanité. Non, ça n'arrivera pas.
Mais voilà, c'est aussi une hypothèse. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Maintenant, dans les deux cas, je pense que l'objectif de censurer la population était quand même fort présent dans leur tête. Et c'est pas leur première fois.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis, donc Donald Trump a décidé de sortir les États-Unis de nombreuses organisations internationales. Celle qui a plus fait parler, c'est le GIEC, mais il a aussi donc sorti les États-Unis du Freedom Online Coalition. Bon. C'était entre réellement, voilà, c'était le moment, non, mais c'était.
Ils ont quitté aussi les.
Ah oui, mais il y en a eu 55. Oui,
ça,
voilà. Moi, l'OMS était déjà encore dans cette époque où l'Internet peut permettre au peuple de se libérer d'une dictature, pas tout seul, mais au moins donner un moyen de communication. On voit que les dictatures coupent Internet au premier signe de révolte. On voit que le chemin est mal pris, mais bon, c'est-à-dire que ça, depuis l'élection de l'agent orange, on s'en doutait un petit peu. Pierre, un nouveau dirigeant pour Mozilla, ça te rassure pas beaucoup sur la direction.
Ah bah non,
Il y a des mots, il faut pas dire.
Ah bah là, oui, il les a dit clairement. Alors, j'ai oublié de faire une traduction en avance. Donc, Firefox va évoluer de son état de navigateur Internet vers un écosystème plus large de logiciels de confiance. Firefox restera notre rank, notre point d'attache.
Genre informatique de confiance, rassurant.
Déjà,
en fait,
c'était un bon point de départ de la phrase. Et surtout, la fin est magnifique. Firefox va évoluer dans un navigateur d'intelligence artificielle moderne et servira de fondation pour un portefeuille d'applications nouvelles et de confiance.
Ce qui est drôle, c'est que Dell, très récemment, donc a ressorti une de ses gammes de PC portables, hein, l'XPS pour pas le nommer, parce qu'il l'avait arrêté parce qu'il voulait vendre des PC IR-ready adaptés à l'IA, oui. Et ils ont avoué que
personne
n'en voulait. Bon, c'est peut-être un petit peu, il se met à la mode un peu à contre-temps, peut-être.
C'est ça. Non, c'est assez inquiétant parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire autour de Firefox. Et le problème, c'est qu'ils vont continuer à se diversifier et à gaspiller de l'argent à côté. Parce que aujourd'hui, clairement, on en parlera peut-être dans une prochaine émission. L'IA, ça ressemble de plus en plus à une bulle d'un point de vue économique. Donc, investir là-dedans, au moment où la bulle commence à être vraiment grosse et menace d'exploser, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle.
Comme on a dit encore récemment, on n'est pas l'inventeur de la formule. Lors de la ruée vers l'or, ceux qui s'enrichissent le plus, ce sont les vendeurs de pelles.
Exactement.
Hashtag Nvidia.
C'est bizarre, qui c'est qui me paye en ce moment? C'est le vendeur de pelles.
on va pas commencer à partir sur ce terrain, Pierre. Dans la rubrique « Nos ministères ont du talent », on va parler du ministère de la Culture, dirigé par sa sémillante ministre, Madame Rachida Dati. Alors, c'est pas pour parler de la politique de Rachida Dati, hein, pour le coup. C'est pas dans le scope de l'émission pour commettre un horrible anglicisme. Ça, c'est qu'on travaille dans le secteur, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ils ont pas, trouvé de problème à rédiger des communiqués, rédigés à l'aide, d'appels à l'IA, sauf que l'IA a halluciné des titres. L'IA a halluciné des titres.
T'as fait pire. T'es encore trop gentil avec eux, là.
Je suis trop gentil.
Attention.
Désolé, Pierre.
Voilà, alors. Ils ont réussi à faire pire. Donc, il y a eu un rappeur qui est décédé, donc Kalboni Mbani.
Je ne connaissais pas.
Dit Calbo. Et donc, le ministère de la Culture, en tout cas, c'est signé de Rachida Dati, hein, attention, hein, et un hommage qui est rendu. Et il se trouve que le communiqué copie-colle repompe depuis un site qui, effectivement, dressait la biographie de Calbo. Et ce site était basé sur l'IA. C'était un site non fiable. Ils ont copié-collé depuis un site non fiable, sans vérifier. Et donc, il y a des erreurs comme des titres de chansons mal repris. Il y a des fautes en plus de français, d'accord, de conjugaison, de syntaxe dans le texte. Le texte n'a jamais été relu, en fait, clairement.
Donc, ce qui est dommage pour un communiqué de presse officiel.
Voilà, par exemple, il était définitivement rentré et eux. Ouais, ça pique. Ou des titres comme Box ou Shalom, donc Shalom, titre incorrect, avaient haïté. Ça, c'est compliqué. Donc, en fait, leur communiqué, c'est très simple, c'est un copier-coller depuis un article sur un blog, en fait. Alors, le blog entier semble avoir été généré par IA. Alors, je vais pas dire tout le contenu parce que c'est assez bizarre. Ça ressemble juste à du contenu de spam, comme on en retrouve de plus en plus sur Internet. Alors, c'est Next qui a relevé la chose et je me permets de repointer, et ça serait bien que même des gens genre au ministère de la Culture y pensent. Next a développé une extension pour Firefox et pour Chrome qui permet de détecter les sites.
Alors moi j'ai compris que c'était pas de la détection automatique, c'était un répertoire.
Oui, mais alors
un peu sur le mode adblock quoi.
Il n'y a pas le choix, en fait.
Que les recherches Google, je suis d'accord, hein, j'ai l'impression que tu tombes que sur que des sites. Alors déjà, tu te donnes la réponse à 15 questions que tu t'es pas posées.
Exactement.
Dont la moitié des questions, je veux rien dire, sont complètement stupides. Mm-hmm. Bon. À part ça, Wikipédia n'est pas fiable puisque tout le monde peut le modifier. Pierre, c'est bien connu.
Exactement. Mais donc là, c'est quand même assez grave de la part du ministère de la Culture puisque ils ont juste repris sans aucune vérification du contenu généré par IA.
En plus, c'est le ministère de la Culture, quoi.
Oui.
Ils n'ont pas vraiment d'excuses. Gens qui ne savent pas écrire au ministère de la Culture, c'est quand même terrible.
C'est assez honteux, quoi. On est en train de niveler d'abaisser le niveau à un point. C'est assez inimaginable.
Noibi accuse TikTok de récupérer des données d'autres applications, dont Grindr, dans un contexte où les homosexuels subissent encore de trop nombreux harcèlements, c'est quand même pas quelque chose. Alors encore, en France, c'est pas le pire pays, mais imaginez dans des pays où l'homosexualité est légalement réprimée, imaginez les conséquences que ça peut avoir.
Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, c'est parce qu'un utilisateur a demandé dans le cadre des procédures diverses au niveau européen qui existent pour récupérer ces données. L'utilisateur a fait une demande auprès de TikTok pour récupérer les données le concernant et il s'est rendu compte qu'il y avait des données qu'il n'avait remplies que dans l'application Grindr et que ces données s'étaient retrouvées chez TikTok. Donc TikTok fait appel pour ça à une petite entreprise israélienne qui s'appelle AppsFlyer et dont la spécialité est donc de pomper des données à droite à gauche et de les revendre à ses clients. Tout simplement.
Un juste petit business.
Exactement.
Très sympathique. Ça crée de l'emploi, Pierre.
Ça crée de l'emploi, peut-être. Mais donc, c'est typique. Alors là, c'est TikTok qui est tombé dedans. Je rappelle que c'est le fonctionnement d'une majorité d'applications TikTok est gratuit avec des gros guillemets, il y a un problème, c'est que faire fonctionner une plateforme comme TikTok, c'est très loin d'être gratuit, de la même façon que faire fonctionner un Facebook, c'est très loin d'être gratuit. Et qui paye
là, on
pour
va
TikTok,
ressortir la vieille antienne, si c'est gratuit,
c'est que c'est vous le produit.
Merci Pierre, on va clôturer cette partie Internet et vie privée après avec un premier morceau de musique. Nous allons écouter Square Soul, Jupiter and Mars. Vous écoutez les codes Ignos sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. So, Jupiter en Mars. Vous écoutez les codes Ignos sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
Cette visitation vous était offerte par la lampe du studio qui marche pas au milieu.
Voilà, donc du coup, si on dit une bêtise pendant une pause musicale, ne vous étonnez pas. On va faire très attention à ce qu'on dit, parce que là, on parle un peu sur le dos de notre public. Non, c'est pas vrai du tout. Et donc, on va parler logiciel. Non, et libre en plus. Ben, il y a un logiciel libre, de moins en moins libre.
Ben, un logiciel open source, déjà. On va
open source. Hein.
Là, je commence à utiliser la séparation, c'est plus possible.
Non, Google, donc AOSP, donc la version open source diffusée d'Android, donc peut être utilisée voilà, par, notamment par Lineage ou
GrapheNOS.
GrapheNOS, donc ceux qui veulent mettre un OS libre. C'est quand même une licence libre. Hein. C'est que ça reste une licence libre sur sur leur téléphone, donc ne sera publié. Enfin, le code source ne sera plus publié que deux fois par an sur des logiciels qui évoluent rapidement. C'est quand même assez fâcheux.
Oui, puis il y a pas que ça. Hein. C'est attention. C'est aussi toutes les modifications du code. C'est pas on publie une nouvelle version à telle date. C'est on ne pousse les changements que à deux moments par an. C'est... Je sais pas si c'est très clair la différence entre les deux.
Non, tu peux le répéter.
Mettons, prenons un logiciel libre, un vrai, Linux par exemple. Je peux aujourd'hui aller sur kernel.org et récupérer les derniers changements qui ont été ajoutés au noyau il y a 30 secondes. Je peux les trouver. Je sais quels changements ont été ajoutés il y a 30 secondes, il y a 35, il y a 60 secondes. Je vois tout le développement se passer en temps réel. Je vois tout ce qui se passe. Là, dans le cas d'AOSP, deux fois par an, il y a des changements qui vont apparaître, issus de Google. C'est tout. Il y aura plus d'accès, il n'y a pas d'accès au code tel qu'il est en cours de développement. Si vous voulez avoir une idée des nouvelles fonctionnalités d'Android, si vous voulez contribuer une nouvelle fonctionnalité à Android, vous ne pouvez pas, puisque vous n'avez pas accès à la version en cours de développement.
Oui, c'est ça que tu dénonces en fait, c'est que c'est une fois que c'est fait.
C'est pas que ça qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'aussi, parce que c'est pas clair, que vont devenir les mises à jour de sécurité? Est-ce que les mises à jour de sécurité pour les fournisseurs, enfin pour les gens qui sont en dehors justement des fournisseurs OEM type Samsung, Fairphone ou autre, je suis désolé, hein, je suis pas trop fort en Android, donc je peux pas facilement citer beaucoup de marques. Mais donc en dehors de ces fournisseurs-là qui, eux, ont un accord avec Google et vont peut-être avoir les mises à jour de sécurité dans les temps, qu'est-ce que ça va devenir pour des Lineage OS, pour des GrapheOS, pour iOS, enfin, tous ceux qui développent des versions d'Android en dehors du modèle commercial qui prévaut. Et donc, pour ça, c'est extrêmement inquiétant, sachant qu'on en a déjà parlé, Google a déjà commencé à éviscérer assez clairement Android ces dernières années, en retirant de plus en plus d'applications de la base d'Android pour les développer à la place dans ces Google Services. Donc les Google Play Services contiennent, par exemple, si aujourd'hui vous installez Android et que vous ouvrez l'application de SMS, vous ne tombez pas sur l'application Android, vous tombez sur l'application Google Message. Si vous installez par contre un Android depuis AOSP, donc un LineageOS, un GrapheOS ou autre, là vous tombez sur l'application SMS. Et la différence, ben, par exemple, l'application SMS ne va gérer que les SMS et pas le RCS, donc le nouveau protocole de messagerie. Parce que ben, Google l'a développé que pour eux, donc ça c'est du logiciel propriétaire.
Oui, et on peut pas patcher le logiciel Android Office, enfin entre guillemets.
Ah, je
Android
pense que tu peux proposer un patch. Ils seront ravis de le refuser.
Non, mais tu peux le patcher, tu peux faire comme c'est libre, tu peux toujours.
C'est libre, voilà, on a le code, on a le droit de patcher, ils ont le droit d'en avoir rien à foutre. C'est un peu le concept qu'il y a maintenant. C'est en fait, le développement de Google n'est plus que interne. La version publique sera toujours en retard et elle sera toujours de plus en plus en retard. Là, le retard, il va être rattrapé deux fois par an seulement. Je pense que dans 2 ans, ce sera plus qu'une seule fois par an au mieux. Et encore, ça, ils le font uniquement parce qu'il y a une licence qui les contraint légèrement derrière, mais la licence, très clairement, son esprit.
Une vive inquiétude sur l'avenir des Android libres.
Ils ont plus d'avenir. À partir du moment où il y a ce genre de changement, ils n'ont plus d'avenir. Et par ailleurs, c'est vrai que je me permets de caser ça parce que j'ai complètement oublié de la mentionner dans les actualités. Il y a eu un petit problème, on va dire, récemment sur un Android, enfin pour des utilisateurs d'Android, et ça, c'est encore plus grave pour la liberté d'Android. Des utilisateurs auprès de la banque HSBC, donc pas des francophones, parce que la banque HSBC en France, c'est des parts de marché minimes, mais c'est surtout aux États-Unis ou en Royaume-Uni. Des utilisateurs ont vu l'application HSBC cesser de fonctionner parce qu'ils avaient installé une application à travers, je crois, je sais plus si c'est une application spécifique ou si c'est le fait qu'ils avaient installé l'application à travers F-Droid ou équivalent.
D'accord, je ne savais même pas qu'une appli bancaire était disponible via un store alternatif.
Ah non, 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 l'application bancaire, elle est sur le Play Store. Mais elle a cessé de fonctionner parce qu'ils avaient installé une autre application à
Ah,
côté par
d'accord,
un store alternatif.
d'accord, oui, c'est ok, là c'est plus clair.
Une application non liée à la
Puisque
banque.
HSBC, ils ont revendu la banque française appartient plus à
Ouais,
HSBC.
ça,
Ouais, enfin bref, on va pas
c'est
vous en
pas
dire.
vraiment l'importance. En fait, ce qui se passe, c'est que l'application de la banque refuse de fonctionner puisque sur le téléphone, une autre application a été installée en dehors du store d'Apple, du store de Google. Et ça, par contre, c'est grave. Ça veut dire que non seulement l'Android lui-même n'est plus libre, mais même sur l'Android que vous avez sur votre téléphone qui est fermé, vous n'avez même plus le droit d'installer des
Alors
applications
que
en dehors.
vous avez besoin des fois pour utiliser votre carte bleue en ligne, votre carte bancaire en ligne, utiliser une clé digitale qui n'est
clé numérique.
Ils appellent ça la clé digitale commercialement.
Clé numérique. Non,
la clé digitale numérique.
On est en 2026, on n'accepte plus cette erreur.
Oui. C'est l'appellation commerciale, Pierre. C'est pas moi qui l'ai inventé pour pouvoir valider des paiements en ligne.
Ouais, ben moi ça m'a fait changer de banque. Ça, déjà une fois, j'hésiterai pas à rechanger de banque si on me le refait.
Très bien, Pierre.
Voilà.
Tu nous diras. Ah bah non, enfin, on fait pas. C'est pas ici. On fera des pubs pour des banques. On va faire hors antenne sur le wiki si tu veux.
On a parlé banque. Ne mérite pas de publicité.
On a parlé banque, maintenant on va parler voiture.
Oui.
Et une voiture,
la voiture.
La oula.
Oh, putain, c'est
vieux. Tu sais qu'il y a peut-être des gens qui étaient pas nés à l'époque, Pierre.
Quoi?
Qui étaient pas nés à l'époque de la.
Chut.
Donc là.
La voiture de l'année.
Oui, la voiture de l'année. Alors, je pense qu'il y a plusieurs voitures de l'année. Parce que là, c'est la voiture de l'année. Parce qu'on parle plutôt d'un modèle, d'une marque à trois branches. Donc, c'est le modèle CLA. Donc, on est sur plutôt un modèle haut de gamme. Et donc, sur l'issue de bord, embarque.
Plasma KDE. Et ça fonctionne sous Kwin. Donc, voilà. C'est comme quoi, il n'y a pas. Tout le monde n'a pas besoin d'Android. Genre, pourquoi toutes les voitures seraient sous Android?
Et ça base, et du coup, c'est bien basé sur Linux.
Ah ben, du coup, oui, oui. Fort probablement.
Et donc, on s'attendait à chaque année à l'année de Linux sur les desktops. Et en fait, on a l'année de Linux sur la voiture.
Bah après, ça fait un bout de temps qu'il y a Linux dans les voitures. Mais là, c'est Linux avec en plus des outils de bureau de Linux sur la voiture, quoi. Waouh! Ça, c'est une grande
révolution. Parce que le temps qu'il faut pour aller ouvrir une application dans KDE, moi, je l'ai plein.
Mais non.
Les possesseurs de Merco, vu au prix que ça coûte, en plus, ces machins-là.
C'est bizarre.
Si vous intéressez tant soit peu au matériel, ou vous avez besoin d'acheter du matériel, ou vous travaillez dans l'informatique avec un peu de matériel,
attendez avant d'acheter.
Ouais, c'est ça. Il ne vous a pas échappé que le prix de la mémoire a quelque peu augmenté.
Quelque peu.
Légèrement.
Un collègue a.
À tel point qu'il y a des boîtes que je n'avais pas laquelle, on dit pouvez-vous anticiper vos besoins en mémoire et en disque dur parce que là, va falloir.
C'est ça. C'est au point qu'un collègue qui a acheté un PC, qui a eu son PC portable de boulot il y a 3 mois.
A revendu la RAM et s'est racheté un PC encore mieux.
Honnêtement, c'est bien tentant parce que la RAM vaut désormais 1 500 € alors que le PC portable valait 1 900. Ça a un peu augmenté le prix de la RAM. C'est ce qui se passe, c'est que en fait une petite entreprise qui s'appelle OpenAI, hein, donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT,
PME locale,
la PME locale exactement, ils ont signé un petit partenariat pour obtenir l'exclusivité des puces de RAM des deux principaux fabricants de mémoire vive. Voilà, ils ont acheté toute la RAM. Ils ont même pas acheté toutes les barrettes, ils ont acheté toutes les puces. Donc comme ça, les fabricants des barrettes de RAM n'ont même plus les puces pour...
OpenAI qui a récemment demandé au gouvernement américain de bien vouloir garantir leurs dettes.
On n'est pas une bulle financière près. Donc ça va être intéressant. Là, c'est vraiment pas l'année où... Enfin, c'est pas le moment où acheter du matériel informatique juste parce que le prix de la RAM est devenu assez... Élevé.
La prochaine news, à la base, je crois que je m'en fous un peu, mais tu vas me dire en quoi j'ai tort. Google Chrome permet enfin d'imprimer via un Flatpak ou un Snap. Dis-moi en quoi ça devrait m'intéresser.
Ah merde, c'est une bonne question. Non, c'est juste ce qui m'a amusé, c'est le fait qu'aujourd'hui encore, on est en 2000. Voilà, maintenant on est en 2026, même si l'actualité elle date de fin décembre, et des logiciels très utilisés comme Chrome ont toujours du mal avec des fonctionnalités de base comme l'impression sous Linux. Et je trouve ça quand même franchement triste. Il a fallu attendre tout ce temps, et encore, la version n'est toujours pas sortie.
J'ai fini par installer un Google Chrome sur mon PC, parce qu'il y a des fois, Firefox, on sent qu'on est devenu minoritaire, et que en cas d'extrême urgence, d'absolue nécessité, il m'est déjà arrivé d'utiliser le Chrome. Mais
même sur des sites gouvernementaux, ça m'est déjà arrivé. Peut-être pas avoir le choix.
Mais bon, ça reste exceptionnel. Donc,
heureusement.
Le besoin reste quand même assez limité. Un nouveau pilote NCFS en vue pour Linux.
Ben oui, les gens qui sont encore en dual boot, même si, et il y en a de plus en plus apparemment en ce moment. Donc, petite bonne nouvelle pour eux. Donc, la lecture des fichiers Windows sous Linux,
ça comme une étrenne.
C'est toujours compliqué. Donc, c'est toujours compliqué. Ça s'est nettement amélioré il y a une dizaine d'années avec le NTFS 3 qui était sorti. le nouveau pilote. Sauf que ça, et justement, on l'avait fêté dans cette émission, on avait dit c'est super, ça règle un gros problème, etc. Sauf que l'entreprise qui a fourni ce nouveau pilote, ils ont fait tenez, voici le pilote, puis nous on se casse. Et le problème, c'est que le pilote n'était pas franchement de super bonne qualité. Il y avait des problèmes de performance, il y avait des bugs, etc. Et le code était dégueulasse. Donc bah là, des gens, enfin des développeurs indépendants ont dit bon, bah, on va reprendre l'ancien pilote Linux et puis on va reprendre le travail sur une fondation plus saine. Ouais. Comme quoi, bah, des fois, il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. C'est toujours plaisir, mais bah, en tout cas pour les utilisateurs de les gens sous Linux en dual boot ou les gens sous Linux qui ont à ouvrir des disques d'utilisateurs de Windows, c'est plutôt une bonne nouvelle.
La première dégeekalisation de l'année, c'est après un deuxième morceau de musique, The Hollow Pulse True Color Shine. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était The Hollow Pulse, True Colors Shine. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, le sujet d'aujourd'hui, de plus en plus de gamers sous Linux. Youpi, ça c'est de bon. Ce qui marche et ce qu'il reste à faire. Parce que c'était quand même, il faut le dire, un des gros écueils pour faire passer les gens sous Linux, c'est bah, les jeux.
Tout à fait, ça continue d'être un gros problème. Alors, ça continue d'être un problème. Justement, ça l'est de moins en moins. Il y a des merci sujets, Steam. Par contre. Là, Valve. Clairement, c'est la dégeekalisation. Merci Valve, merci Steam. Donc, on va rembobiner un petit peu la bande. Il y a. Oh merde, j'ai même pas noté les dates. J'aurais dû. Il y a.
Improvise.
Il y a une quinzaine d'années, on avait largement fêté ça. L'entreprise Valve avait annoncé le port de Steam sous Linux. Donc Steam, c'est la plateforme de vente de jeux vidéo aujourd'hui sur PC. C'est le plus gros, parce que ça permet à de nombreux éditeurs de publier leurs jeux, et c'est disponible sous Windows, macOS et Linux.
Ce qui fait que mon Counter-Strike que j'ai acheté il y a 15 ans, il fonctionne super bien sous Linux.
Exactement. Donc Valve annonce la disponibilité de Steam sous Linux, et derrière ils disent, et tous nos jeux, donc tous les jeux de Valve, vont être disponibles sur Linux.
C'est pas un éditeur mineur ?
Ah non, c'est pas un éditeur mineur. On lui doit des Half-Life, des Counter-Strike, Dota. Donc c'est des jeux qui sont importants dans le domaine de l'e-sport.
30 ans.
Dota 2 est encore mis à jour toutes les semaines. Counter-Strike est encore mis à jour toutes les semaines.
Parce que. Tu trolls.
Ah, tu trolls, oui.
Attention, non. On est là pour ça.
Il y a des jeux que j'aime bien dans le jeu. Et donc, c'était un bon départ. Ils ont essayé ensuite de faire des. De faire des consoles. En fait, ils se sont rendus compte que la trajectoire suivie par Microsoft avec Windows 10, Windows 11 était très dangereuse pour eux, puisque, grosso modo, Microsoft visait à avoir sa propre plateforme Xbox Live sous Windows, et donc les gens qui allaient payer des jeux chez Microsoft sous Windows, et donc quel était l'intérêt pour eux d'installer un autre l'application d'un autre magasin de jeux vidéo. C'était un gros problème pour Valve, et c'est clairement leur concurrent aujourd'hui, c'est encore Xbox. Et donc, leur stratégie, à l'époque, ils ont dit, bah, on va commencer à faire des consoles. Ils ont fait une première console, la Steam Box, ou Steam Machine. Non, la première. Ouais. Tout le monde s'en souvient bien. Ça a été un succès...
phénoménal.
Ouais, ça a été un flop. Parce qu'il y avait un gros problème, c'est qu'elle ne faisait fonctionner que les jeux que les jeux sur Steam portés sous Linux. C'était pas un gros catalogue. Donc depuis, Valve a accéléré sa stratégie en contribuant massivement au développement de Wine, l'émulateur Windows sous Linux, donc qui permet, enfin le non-émulateur, on va passer sur les détails techniques, mais qui permet de faire tourner des applications Windows sous Linux, y compris des jeux. Et donc ils ont fait leur propre variante de Wine, qui s'appelle Proton, et qui est vraiment optimisé pour les jeux avec des patchs qui ne sont pas encore disponibles pour tout le monde ou qui sont trop spécifiques au jeu. Et qui sont présents que là, il n'y a pas de raison de les avoir partout. Et donc, derrière, il y a un effort communautaire qui est apparu sous le nom de ProtonDB, qui permet de savoir quels jeux sont compatibles, et ben au fil du temps, maintenant, on arrive à avoir des taux de compatibilité qui sont franchement remarquables. On a la majorité des jeux vidéo, maintenant, qui sont disponibles sous Linux, et donc Valve, derrière, a continué avec le Steam Deck, qui est un grand succès, une console de jeux portable sous Linux, et qui est capable de faire tourner, un pourcentage non négligeable de jeux qui n'ont jamais été conçus pour Linux à la base et donc qui tournent sous Linux sur une console portable même. Et donc là, le potentiel pour les gamers, maintenant en fait, il est là. Quand on dit que les gamers passent sous Linux, attention, les gamers passent finalement sous SteamOS ou un équivalent avec une plateforme Steam. Alors, ils ne sont pas intéressés du tout par le côté logiciel libre, mais... ça fait des utilisateurs de Linux, ça fait des utilisateurs de desktop Linux, et mine de rien, c'est assez intéressant aussi parce que c'est des cas d'usage complètement différents. On en a parlé à plusieurs reprises au fil des émissions, il y a eu des ajouts à divers endroits sous Linux, et alors là, je m'amuse pas à les citer à chaque fois, mais même là, il y a récemment Meta qui a annoncé il y a tel truc qui a été développé à la base pour les gamers sous Linux, et on s'est rendu compte que c'était vachement pratique sur les serveurs, ça améliore les performances. Bon, tant mieux.
Forme de sérendipité.
Exactement. Et donc, là, avec la combinaison Microsoft qui est en train de pourrir Windows 11 à une vitesse incroyable, avec l'IA partout, les mises à jour buggées qui passent régulièrement, etc. À côté, Valve qui développe massivement Proton et SteamOS, on a quelque chose de plutôt positif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pour un gamer? Et donc si vous avez des gamers dans votre entourage qui en ont ras-le-bol de Windows, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Ou qu'est-ce qui ne marche pas? La question, c'est plutôt qu'est-ce qui ne marche pas finalement que qu'est-ce qui marche. Parce que la liste est plus courte quand même. Donc s'il s'agit de jeux Steam, le plus simple, c'est d'aller sur ProtonDB. Parce que là, on peut voir les différents jeux, et il y a des avis, il y a les gens qui disent, ce jeu-là, ça marche, ça marche pas, etc.
Oui, un peu comme le Wine, en fait.
Comme le AppDB de Wine, sauf que là, c'est orienté spécifiquement pour les jeux, et ça teste Proton plutôt que Wine, Proton qui est plus avancé pour les jeux. Mais le gros truc qui manque encore aujourd'hui, et qui va être un énorme sujet, et pour lequel Valve ne peut pas facilement développer de solution, c'est les jeux avec des systèmes anti-triche. Ces jeux-là, par contre, ça reste un gros problème aujourd'hui. Et le problème est assez complexe, puisque là, c'est même d'un point de vue philosophique, et légal, les systèmes anti-triche en question ne peuvent pas être réalisés tels quels sous Linux.
C'est une variante du DRM ou... C'est quoi le...
Alors,
l'explication technique.
L'explication technique est assez rigolote, même si ça me fait peur. En fait, ces systèmes anti-triche fonctionnent déjà comme des rootkits, c'est-à-dire qu'ils s'injectent au niveau du noyau dans Windows, donc au plus bas niveau possible sous Windows. Donc déjà, c'est mal barré pour les faire fonctionner sous Linux, puisque le noyau n'est pas le même. Tu peux pas l'émuler non plus, c'est pas possible. Donc déjà, ils se mettent à un endroit très bas niveau, c'est très compliqué. Et en plus, le but, c'est d'être le plus fermé possible, Donc déjà, ben, se mettre au niveau à ce niveau-là dans le Linux, s'il y a une contrainte, c'est que tu dois être sous une licence libre. C'est la GPL règne dans le noyau Linux, donc ça devrait être libre, donc c'est un premier problème. Et il y a un problème après philosophique, effectivement, des systèmes comme ça sont fermés par nature sur un système qui se veut ouvert par nature. Ça va être une course permanente, et hein, ils ne peuvent pas, autant sous Windows, ils peuvent gagner, mais sous Linux, ils ne peuvent pas gagner. Quoi.
Excuse-moi Pierre, je suis pas gamer, je suis ce qu'on appelle un casual, mais genre, voilà, casual
détente, occasionnel.
Voilà. C'est quoi la proportion de jeux? C'est plutôt les jeux qui sont utilisés en e-sport, je suppose.
Ben voilà, c'est les gros jeux qui font le buzz en e-sport. Des Valorant, c'est pas trop mon truc l'e-sport, je me base sur ce que je vois jouer par les gamins à la maison. Mais voilà, il y a quelques jeux comme ça, des gros jeux qui, effectivement, ont un système anti-triche qui bloque tout. Et je me demande, du coup, comment ça va se passer pour avoir des ports Linux de ces jeux. Il faudrait que les éditeurs fassent de vrais ports, et là, ça va être plus compliqué de leur faire accepter la pilule. Donc à suivre.
Merci Pierre pour cette déguiquisation très instructive. Comme de coutume, nous allons écouter un troisième morceau de musique avant de passer aux actualités sécurité. Tabby Wolf, I'm the Lady of Your Desires. Vous écoutez les codecs nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusville.com.
Oh, the moonlight's dancing on your skin. A sinner's prayer, where should I begin? Your shadow leans, it whispers close. The kind of feeling the heavens boast. I'm no saint, but I'm divine. A spark of fire in every line. I am the lady of your desires, a flame that burns but never tires. I'll light the dark, your guiding star. You'll find your heaven where I am. A velvet voice, it weaves and sways through smoky nights and gospel rays. The angels hum, but here I sing a tune to make your in this holy place. I am the lady of your desires, a flame that burns but never tires. I'll light the dark, your guiding star. You'll find your
C'était Tabby Wolf, I'm the Lady of Your Desires. Vous écoutez les codecs nous sur Radio Campus, c'est la dernière partie des actualités. On va parler sécurité et puis peut-être aussi des brèves diverses et variées pêle-mêle. Pour ceux qui ont la respire, je suis sûr que tu ne l'as pas. Fin de l'expérimentation de Rust dans le noyau Linux. Tu aimes beaucoup Rust et tu aimes beaucoup le noyau Linux.
Tout à fait. Donc, on en avait parlé dans cette émission. Donc, pour faire très bref, le langage programmation Rust a été créé dans le but de permettre le développement de Mozilla sous une forme plus sécurisée que les langages traditionnels. Et le langage a pris de l'ampleur et il a commencé à être intégré dans le Linux sous une forme expérimentale. Donc l'expérience a commencé il y a quelques années. Donc elle a commencé il y a trois ans, je crois. Et l'expérience est désormais terminée, c'est-à-dire que le noyau Linux accepte désormais officiellement Rust comme faisant partie du noyau, point.
Donc elle est terminée et concluante.
Exactement. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire vraiment c'est là pour rester. Donc à suivre, c'est plus positif pour l'évolution du noyau Linux, pour à terme normalement réduire les failles les plus critiques qu'il pouvait y avoir, qui étaient liées à la difficulté d'utilisation du langage programmation C principalement.
Alors, on parle de sécurité en général, informatique, logiciel, on parle code source. Là, dans Next, qui est une de nos principales sources dans cette émission, a fait un test sur un objet assez banal, hein, maintenant, qui se multiplie de par l'achat multiple de chargeurs de téléphone. Donc, on parle de chargeur, même si maintenant, il est plus obligatoire de mettre des chargeurs dans les packages de téléphone. Donc maintenant, le fait est que comme c'est plus fourni par le fabricant, faut souvent maintenant en acheter sur Internet. Et c'est là que faut se méfier surtout à une certaine gamme de prix.
Exactement.
Si on propose un chargeur 60 watts à moins de 10 euros, faut pas.
Alors, exactement. Ils ont acheté des chargeurs, donc ils ont testé 12 chargeurs USB à moins de 20 euros, 12 chargeurs à moins de 10 euros. Ils ont eu extrêmement peur.
Des caméras thermiques pour voir la chaleur.
Ils n'ont pas pris que ça, ils ont pris aussi
notamment.
En fait, ils ont eu besoin de matériel spécifiquement pour tester que les protocoles de charge annoncés comme étant supportés pour la charge à 45 watts, 60 watts, etc. Ils ont vérifié et c'était pas vrai. Donc là, ils ont eu une blague, par exemple, sur un chargeur de 45 watts à 9,99€ qui n'est plus disponible. On se demande pourquoi. Donc, ils ont branché le chargeur. Il a géré effectivement la charge jusqu'à 45 watts. Petit bémol, on va dire, on va enlever une étoile dans la revue, dans les avis sur ce chargeur. Il a pris feu. Voilà, une chose qui arrive. Donc, ils ont testé en fait tout un ensemble de chargeurs. Ils sont tombés sur des chargeurs estampillés 120 watts qui en fait ne supportaient pas plus que 20 watts, des trucs comme ça.
Ça, c'est le
65 watts qui n'ont géré que 16.
Des marketplace, Amazon qui est à la base un site qui a pignon sur rue. Maintenant, avec le marketplace, il s'ouvre à des fabricants beaucoup moins recommandés. Hein, donc,
Shein et AliExpress, le principe même des.
Je pense que là, il y a une conjonction du fait que, alors, pour des raisons écologiques, c'est vrai que à force d'acheter un téléphone, comme on est obligé de le renouveler tous les quelques années. On se retrouvait avec une collection de chargeurs. Le fait que ce soit plus obligatoire et plus vendu, et le fait qu'on ait aussi besoin de chargeurs pour désormais USB pour beaucoup d'appareils, les montres connectées et j'en passe, cette conjonction fait que on se retrouve avec du matériel dangereux dans les maisons. Bon, j'ose espérer que ce qui est vendu en boutique physique en Europe.
J'espère qu'il y a moins de contrefaçons. Mais attention, il n'y a pas que ça. Ils se sont amusés aussi à tester les câbles. USB.
C'est qu'on se méfierait moins des câbles.
Ouais, on s'en méfie moins. Il faut s'en méfier. Il n'y a pas photo. Donc, ils se sont retrouvés avec des câbles qui avaient même les marqueurs. Parce que pour les très hautes puissances, donc là, pour les câbles 240 watts en USB, parce que ça existe, il y a besoin d'un marqueur spécifique dans le câble pour indiquer que oui, le câble gère bien. C'est protocole. Même là-dedans, ils se sont rendus compte qu'une majorité des câbles vendus étaient non conformes, donc ne respectaient pas la norme et avaient notamment une résistance interne trop élevée. Alors, quelle est la conséquence d'une résistance interne trop élevée sur un câble lorsqu'on charge ?
U égale RI,
tout à fait. Et donc, on se retrouve avec une baisse de tension, Donc pour transmettre la même puissance à l'arrivée, il faut que la puissance au départ soit plus élevée. Et la différence de puissance entre les deux, ben ça va être la température du câble.
L'effet joule.
L'effet joule, tout à fait. Donc leur record, c'est un câble qui a pu dépasser les 100 degrés.
Après, si vous êtes en rate de pâte de cuisson chez vous...
Voilà, si vous voulez vous faire des pâtes, vous pouvez juste charger votre appareil avec ce genre de câble apparemment. C'est extrêmement grave d'avoir ce genre de truc. Alors, il n'y a aucune solution propre. Il n'y a pas de moyen de savoir quel câble va être bon, quel câble va être mauvais. Il faut faire attention où est-ce que vous achetez des câbles. Si vous avez des vieux câbles qui traînent dans vos fonds de tiroir, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Ils sont même tombés sur des câbles USB. L'USB-C, c'est magique. Hein, on peut brancher dans les deux sens. Hein, oui. Ça évite le vieux problème de l'USB où il y avait trois sens. Il y avait le mauvais et en fait le bon. Et ben là, en fait, il y a des câbles USB-C. Donc, les câbles USB sont réversibles. Et ben, ils ont des câbles où, ils avaient...
Il vaut mieux l'utiliser dans un sens.
Ah non, il n'y a qu'un seul sens qui marche parce qu'ils avaient économisé sur les fils à l'intérieur. Ils n'avaient pas mis les deux sens.
Voilà. Comme quoi, les normes, des fois, ça sert à quelque chose.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, non, belle enquête de la part de Next. Donc, si ça vous intéresse,
franchement, il y a eu une étude d'utilité, de salubrité publique.
Tout à fait.
On les en remercie. Parmi toutes les raisons qu'on a de remercier Next. Petit rappel sur les problèmes et dangers de la domotique sur le cloud. C'est une plateforme très connue, hein, en plus. Le leader du marché, presque un Netatmo, donc il a connu en 5 mois 4 pannes, ce qui fait que tous vos appareils connectés via les serveurs de Netatmo n'étaient plus disponibles. Alors c'est plus compliqué de faire effectivement des solutions locales, mais bon, le cloud, je dirais qu'il faut l'utiliser, si j'avais pas trop le choix, au moins pour des appareils où la fonction connectée est du bonus. Parce qu'il y a eu une autre mésaventure, parce que je suis possesseur donc d'un aspirateur robot. Bon, c'est pas moi qui l'ai acheté à la base. Bon, je trouve que c'est du gadget. Bon, c'est un autre débat. Il faut déjà moitié des appartements pour que ça serve ou sa maison. Enfin bref. Donc de marque Nitu. Nitu qui a été racheté par Vorwerk en 2023, et donc c'est un système de cartographie hébergé sur les serveurs de Nitu puis de Vorwerk, donc qui permet à votre robot, dans la première fois il fait une espèce de reconnaissance, après il a cartographié votre domicile et ensuite il refait cette cartographie pour aller il s'en sert pour aller nettoyer votre maison. Sauf que voilà, quand Nitu a fermé ses portes, Vorwerk a repris, donc Vorwerk est connu notamment plutôt d'ailleurs son produit vedette, hein, c'est le fameux truc de cuisine, là, comment ça s'appelle je sais plus.
Thermomix.
Le Thermomix, merci Pierre. Donc ils ont dit, vous inquiétez pas, on assure pendant 5 ans le support. Bah, sauf qu'au bout de 2 ans, on a reçu un mail assez étrange. Alors pour des raisons qui ont trait à la cybersécurité et au respect du RGPD, on va devoir fermer la plateforme.
Oh la bonne excuse.
Ouais, la jolie excuse. Donc alors, il a encore servi aujourd'hui, donc il sert. Hein, il sert. Donc vous pouvez quand même, dès qu'il y va au pif. Ça marche en version j'y vais au pif. Par contre, la partie cartographique est quand même une des raisons pour laquelle les gens avaient acheté ça et pouvoir le lancer à distance. Ça ne marche plus. Voilà. Donc, si la partie connectée est une fonction primordiale de notre appareil, tout ce qui fonctionne sur le cloud, donc qui fonctionne sur le serveur de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise, vaut mieux éviter. Voilà. Moi, j'ai acheté des radiateur connecté, je peux toujours le programmer, même s'il n'y a plus c'est une option. Bon, voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Pierre.
Et pourtant, c'est pas si difficile que ça d'avoir.
Allez, il nous reste 6 minutes.
Ah on va se faire la première dans les divers, je l'aime beaucoup. C'est le gouvernement américain a décidé de retirer la police de caractère Calibri.
Parce qu'elle est woke.
Parce qu'elle est trop woke.
Oui, parce que c'est l'administration Biden donc, qui a été passée de la Times New Roman, la fameuse police par défaut de Word avec Arial, parce qu'elle a des empattements.
Mais dis donc, mon ami. Arial fait partie de l'ancienne génération de police de caractère de Word, justement.
Je suis vieux jeu, monsieur Pierre.
Voilà. Pourtant, toi, tu fréquentes du Microsoft Office.
Oui, mais je sais pas. Hein? Alain reçu de mon plein gré, monsieur. Donc, la police Tamil-Nourman possède des sérifs, hein, des empattements, ce qu'on appelle sérifs. C'est que moi, j'ai eu longtemps à comprendre les polices sérifs sans sérifs.
Tout à fait.
Alors, Calibri est une police sans sérif. Et donc, qui est plus lisible, notamment pour les personnes qui n'ont pas comme langue maternelle une langue qui utilise l'alphabet latin et les gens qui ont des problèmes de vue, donc les malvoyants.
Sauf pas que
là, du coup, notamment. C'est trop inclusif, donc, comme disent les cons, un wok.
Exactement.
C'est un bon détecteur de cons, quand même, cette expression. Si vous entendez quelqu'un dénoncer le wokisme, c'est un con.
Oui, on est à peu près sur ça. Donc oui, ils ont décidé, parce que la police de caractère Calibri, donc, qui est une police propriétaire développée par Microsoft, hein, donc je ne vais pas pleurer sur ça, mais... Le choix d'imposer la police de caractère Calibri était basé en fait sur une volonté effectivement d'inclusion, parce que la police c'est une police moderne. Times New Roman, c'est une vieille police de caractère qui date des
sérieux.
Années. Ça fait moche. Qui date des années 70.
C'est souvent lié.
C'est une vieille police de caractère qui n'a pas été conçue à l'époque pour les personnes, pour simplifier la vie des personnes dyslexiques, pour simplifier la vie des personnes qui ont des problèmes de vue. C'est une police de caractère, c'est vieux parce que on faisait ce qu'on pouvait à l'époque, et puis c'était des reliques de plus anciennes polices de caractère.
Times New Roman au niveau de lisibilité, même quand on n'a pas de problème de vue.
Ah ouais, elle peut piquer des fois. Alors que Calibri, bien ou mal, peu importe, le but de Calibri était d'être nettement plus lisible et plus moderne. Bon, elle est sortie en 2007.
Pire attention. Décision qui a été prise par l'administration Trump, mais c'est vrai que à la fois l'excuse et la volonté de pourrir la vie des gens, bon, c'est un petit peu dans leur programme, hein, des gens qui sont pas comme eux, qui sont pas d'accord. Bon.
Et par ailleurs,
c'est un exemple.
J'étais passé à côté de l'information. Depuis 2023, Calibri a été remplacé par Alptos comme police de caractère chez Microsoft. J'ignorais.
Moi aussi. Attends, on n'a pas la dernière version de la suite office. Voilà. Au boulot, un petit point sur l'agenda. À Villeneuve-d'Ascq, tous les samedis de 9h à midi, a lieu à l'OMJC, rue Yves de Cugis, des ateliers libres à vous, organisés par CELIX. À la ferme du Pire, donc rue Yves de Cugis à Villeneuve-d'Ascq. Une install party organisée par Robin Desbio. Je connaissais Robin Desbio, épicerie solidaire, bio en tout cas, plus dans la mouvance solidaire, donc qui se trouve au 86 rue d'Arras à Lille, donc quartier de Moulins, donc de 14h à 17h, donc c'est samedi prochain. Pour ceux qui nous écoutent en direct ou qui écoutent le podcast dans la semaine de sa diffusion. Donc, samedi 17.
Dépêchez-vous, du coup, d'écouter l'émission.
De 14h à 17h. Oui, c'est quand même une petite date de péremption, cette émission. C'est une émission d'actualité, sauf la dégicalisation, éventuellement. Donc, vous conseille quand même d'envoyer un petit mail si vous voulez participer. Donc, c'est à info@robindesbiotoutcollé.org. Donc, il y a environ 15 places et c'est organisé avec des personnes de l'association Ch'tinux. Et en parlant de l'association Ch'tinux, la traditionnelle permanence du dernier mardi de chaque mois, cette fois-ci c'est donc le mardi 27 janvier de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, où vous attendent des boissons bio et équitables et des gens fort sympathiques. C'était le 290e numéro de l'écho des Gnous, c'était le premier de l'année, et espérons que c'est pas le dernier. En tout cas, on vous attend dans deux semaines, donc nous serons le dimanche 25 janvier, donc comme à chaque semaine paire, de 19h à 20h pour parler actualité logicielle. Il ne nous reste plus à Pierre et à moi qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end et une bonne soirée. Ouais. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupapimento.
Tout à fait. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
À dans deux semaines.
Au revoir à tous. Et bonjour chez vous.
L'écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des Gnous.